VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 20 août 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, le bilan des victimes d'Ebola s'établit maintenant à 49 morts.
Multiplication des hommages à Kofi Annan depuis le décès samedi de l'ancien secrétaire général de l'ONU.
En Afghanistan, le président Ashraf Ghani offre un nouveau cessez-le-feu aux talibans, soutien des États-Unis et de l'OTAN à cette initiative.
Arrivé hier en Israël de John Bolton, le conseiller du président Donald Trump en matière de sécurité nationale.
En Arabie Saoudite, plus de 2 millions de fidèles ont entamé hier le pèlerinage annuel à la Mecque.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, avec désormais 49 morts répertoriés, le bilan s'est encore alourdi, selon les derniers chiffres des autorités congolaises. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Depuis 18 jours, le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola s'élève régulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. La plupart des 49 décès ont été enregistrés à Mangina, à 30 km au sud-ouest de Beni, d'où est partie l'épidémie. 3 décès ont été aussi répertoriés en Ituri. 2157 personnes sont désormais sous surveillance car elles ont également pu être en contact avec le virus, selon le ministère de la Santé congolais. L'Organisation mondiale de la santé s'attend à plus de cas. On ne sait pas si toutes les chaînes de transmission ont été identifiées, a déclaré Tariq Jazarevic, porte-parole de l'OMS depuis le siège à Genève. La vaccination est utilisée comme lors de la dernière épidémie qui avait fait 33 morts dans la province de l'Équateur, au nord-ouest du pays. La fin de cette épidémie avait été annoncée le 24 juillet dernier.
En Tunisie, la garde nationale a indiqué hier soir que 8 corps ont été repêchés depuis l'interpellation de migrants en mer au large de la Tunisie avant l'aube vendredi. Leurs nationalités n'ont pas encore été déterminées selon la même source. Des passagers du bateau avaient tiré des cocktails Molotov contre les forces de l'ordre avant de mettre le feu à leur embarcation et de tenter de s'enfuir à la nage, avait indiqué vendredi la garde nationale. Un passager avait été retrouvé mort, 4 Tunisiens, 8 Ivoiriens et 2 Congolais ont été arrêtés par la police.
En Égypte, le procureur général a décidé de déférer devant la justice 2 moines coptes pour le meurtre d'un évêque fin juillet au nord-ouest du Caire. Dans son communiqué, le parquet accuse les 2 moines de s'être mis d'accord pour tuer l'évêque après des différends non spécifiés. Aucune date n'a encore été fixée pour leur jugement.
Torrent d'hommages à travers le monde après le décès samedi de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix. Le Ghana, son pays natal, entame une semaine de deuil. De nouveau, Claire Morin-Gibourg.
De nombreuses voix ont rendu hommage à Kofi Annan partout dans le monde. Ici, aux États-Unis, Barack Obama, l'ancien président américain, a salué sa mémoire. Ainsi que Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU. Sur Twitter, elle a déclaré que Kofi Annan a voué sa vie à faire du monde un endroit plus pacifique et qu'il n'avait jamais cessé de se battre pour la dignité de chacun. L'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné une force qui guidait vers le bien. « Nous n'oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats », a tweeté le président français Emmanuel Macron, alors que son homologue russe Vladimir Poutine a déclaré avoir sincèrement admiré la sagesse et le courage du diplomate. La chancelière allemande Angela Merkel a, elle, insisté sur la voix de Kofi Annan qui va beaucoup nous manquer à une époque où la recherche en commun de solutions aux problèmes mondiaux est plus urgente que jamais, tandis qu'Amnesty International a salué un champion de la justice, de la paix et de la dignité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Afghanistan, le président Ashraf Ghani a annoncé dimanche un cessez-le-feu de 3 mois avec les talibans, à condition que ceux-ci interrompent également les combats après une récente poussée de violence dans le pays. Les précisions de Jean-Roger Bion.
J'annonce à nouveau un cessez-le-feu à partir de ce lundi, peu avant l'Aïd al-Adha, la fête musulmane du sacrifice, jusqu'à l'anniversaire du prophète le 21 novembre, à condition que les talibans fassent de même, a lancé le président Ghani lors d'une intervention télévisée à l'occasion du jour de l'indépendance nationale. Dans des communiqués séparés, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg ont dit soutenir cette offre de cessez-le-feu. Il n'y a pas d'obstacle pour les pourparlers. Le temps de la paix est venu, a déclaré M. Pompeo à l'égard des talibans. Nous restons prêts à soutenir, faciliter et participer à des négociations directes entre le gouvernement afghan et les talibans, a-t-il ajouté. Un premier cessez-le-feu de quelques jours avait été déclaré entre les deux parties en juin dernier pour la fin du Ramadan. L'administration afghane a supprimé tous les obstacles à la paix après avoir consulté dignitaires religieux, partis politiques et sociétés civiles, a fait remarquer M. Ghani. Le chef de l'État afghan n'a toutefois pas mentionné le groupe État islamique dans son annonce de cessez-le-feu, bien que ce groupe soit à l'origine de la plupart des attaques les plus meurtrières contre les civils cette année.
Au Pakistan, l'ex-champion de cricket Imran Khan a prononcé dimanche soir son premier discours de Premier ministre annonçant une batterie de réformes visant à diminuer la corruption et à favoriser le développement dans un pays en croissance mais aux inégalités criantes. Pendant plus d'une heure, il a répété ses promesses de campagne, notamment l'instauration d'un État-providence islamique. Mais il a également abordé des questions rarement évoquées par des chefs de gouvernement pakistanais, comme la lutte contre les abus sexuels sur des enfants ou le changement climatique. Sans citer de nom, il a souhaité améliorer les relations du pays avec ses voisins ainsi que la sécurité dans la province instable du Baloutchistan et les zones tribales frontalières de l'Afghanistan.
Les programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques de l'Iran figurent en tête de l'ordre du jour des discussions de John Bolton, conseiller du président américain Donald Trump en matière de sécurité nationale, avec le premier ministre Benjamin Netanyahou en Israël, où M. Bolton est arrivé hier. Les deux hommes poursuivront aujourd'hui les entretiens qu'ils ont entamés hier lors d'un dîner de travail. Avant son départ pour Israël, M. Bolton avait dit à ABC News que les États-Unis, Israël et la Russie ont le même objectif, le départ de Syrie et d'Irak des forces et milices iraniennes, ainsi que celui des forces interposées soutenues par Téhéran. John Bolton a également souligné que l'Iran doit mettre un terme à son soutien au Hezbollah libanais.
L'ancien directeur du FBI, ou plutôt de la CIA, l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, menace de faire un procès au président Trump pour l'empêcher de révoquer l'habilitation secret défense dont bénéficient d'autres anciens responsables qui, comme lui, ont critiqué le chef de l'exécutif américain. Dans une interview hier à NBC News, M. Brennan a dit « Je vais faire tout ce que je peux personnellement pour empêcher que ce genre d'abus ne se produise à l'avenir, et si cela signifie faire un procès, je le ferai. » En retirant son habilitation secret défense à John Brennan la semaine dernière, M. Trump avait dit qu'il lui fallait faire quelque chose contre ce qu'il a appelé l'enquête truquée sur une prétendue collusion entre sa campagne électorale et la Russie, que l'on a accusée d'ingérence dans la présidentielle de 2016.
Plus de 2 millions de fidèles ont entamé hier le pèlerinage annuel à la Mecque en Arabie Saoudite. Un vrai défi logistique pour les autorités saoudiennes, Jean-Roger Bion.
Oh Allah, me voici devant toi, répètent les fidèles en disant ainsi se présenter en toute humilité devant Dieu dont ils réclament la clémence. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. Tout musulman est censé l'accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Les pèlerins viennent du monde entier. Cette année, les plus gros contingents proviennent d'Égypte, d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Soudan, ont précisé les autorités. Saïdou Bourema vient du Niger.
J'ai appris que c'est un peu difficile, mais par conséquent, je me suis préparé en faisant le sport bien avant. Et je me suis vraiment préparé pour cette épreuve-là. Inch'Allah, on peut tenir.
Ce rassemblement religieux annuel, l'un des plus importants au monde, est un défi logistique pour les autorités saoudiennes. Les autorités ont également amélioré la sécurité après une série de drames ces dernières années. En 2015, le pèlerinage avait été endeuillé par une gigantesque bousculade qui avait fait quelque 2300 morts, dont des centaines d'Iraniens.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco Eric Manirakiza.
En Côte d'Ivoire, le caoutchouc ne fait plus recette à cause d'une surproduction mondiale et des surtaxes prélevées par l'État. En 10 ans, les éveillaculteurs ivoiriens ont vu leurs revenus divisés par 5. Le pays compte actuellement près de 160 000 producteurs, produit 60% du caoutchouc d'Afrique et pointe au 7e rang mondial. Les prévisions pour 2018 atteindraient 720 000 tonnes et encore une augmentation de 20% dans les 3 prochaines années. Mais malgré cette hausse constante, les revenus individuels baissent et atteignent à peine 1 000 la tonne. La société immobilière burkinabé Gelpass Imo veut construire 50 000 logements abordables au Liberia. Le pays fait face à une grave pénurie de logements. Plus de 60% de la population urbaine vit dans des bidonvilles et le taux d'urbanisation est de 3,20%. L'autorité nationale de l'habitat, la NHA, estime que 500 000 logements seront nécessaires d'ici à 2030. Le Cameroun a dépassé 100 milliards de francs CFA, son plafond de décaissement des ressources extérieures. Ceci met le gouvernement en délicatesse avec le FMI. Le ministre des Finances a annoncé le gel des appels de fonds sur ressources extérieures, sauf ceux liés au projet de la CAN 2019 qui aura lieu au Cameroun en juin prochain.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la 5e journée des matchs de groupe de la Ligue africaine des champions, Al Ahly et le Wydad en quart.
Oui, les Égyptiens se sont qualifiés en remportant le derby du groupe A 1-0 sur le terrain de l'Espérance de Tunis, déjà qualifié. De son côté, le Wydad de Casablanca, tenant du titre, a aussi validé son ticket suite à sa victoire de 1-0 devant les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Bonne opération pour Oroya dans ce groupe C. Les Guinéens, désormais deuxièmes, ont 3 points d'avance sur les Sud-Africains grâce à leur victoire de 2-1 devant l'AS Togo Port qui est éliminé.
Dans le groupe B, le TP Mazembe assure sa première place.
Les Congolais ont arraché le point du nul sur la pelouse de Sétif, score 1-0 pour totaliser 11 points et assurer de terminer premier. Derrière, la course pour la deuxième place s'annonce particulièrement disputée suite à la victoire 2-0 de Difa El Jadida devant le Moulia d'Alger. Les Marocains sont deuxièmes grâce à une meilleure différence de but particulière que les deux clubs algériens. Les trois équipes comptent 5 points et tout se jouera lors de la dernière journée. Tout reste à faire aussi dans le groupe D. L'étoile du Sahel, déjà qualifiée, a concédé le nul 1-1 face au Primero do Agosto. Les Angolais classés deuxièmes avec 6 points restent sous la menace de Zesco United, vainqueur 3-0 des Mamba Swallows. Là aussi, tout se jouera lors de la dernière journée.
Cinquième journée également en Coupe de la Confédération et 3 clubs se sont qualifiés pour les quarts de finale.
Exactement, Idrissa. Il s'agit de l'ASV Club de Renaissance de Beckham et d'Al Masri. Les Congolais de Vita Club ont assuré leur qualification dans le groupe A grâce à leur succès de 2-0 face au Raja de Casablanca, puisque la SEC d'Abidjan est allée arracher une victoire inespérée 2-0 face au Ghanéen d'Adouana Stars. Dans le groupe B, il n'y a plus de suspense puisque les deux qualifiés sont connus. Il s'agit de Renaissance Berkane, vainqueur 2-0 Soudan devant Al Hilal et d'Al Masri accroché 1-1 par l'UD Songo. Les Marocains tenteront simplement de conserver leur première place contre les Mozambicains à domicile lors de la dernière journée.
La dernière journée de cette coupe sera très disputée car il reste encore 5 places à prendre.
Oui, d'abord, dans le groupe C, tout reste indécis, même si les surprenants Kenyans de Gor Mahia et les Algériens de l'SM Alger, respectivement battus par les Rwandais de Rayon Sport et les Tanzaniens de Young Africans, sont toujours en tête. Les Congolais de Kara de Brazzaville et les Nigériens d'Enima peuvent également se montrer optimistes après leur victoire face aux Ivoiriens de Williamsville 3-1 et aux Maliens de Tchouliba 1-0, ce qui leur offre une première place avec 9 points chacun en attendant la dernière journée. Celle-ci aura lieu le 29 août prochain.
Rugby, la Namibie qualifiée pour le Mondial 2019.
Après l'Afrique du Sud, la Namibie est la deuxième équipe africaine qualifiée pour ce mondial qui aura lieu en 2019 au Japon. Les Namibiens ont battu leurs principaux rivaux dans l'Africa Gold Cup, les Kenyans, sur un score sans appel 53-28, alors qu'ils n'avaient besoin que d'un point de bonus défensif pour décrocher leur ticket de mondialiste. La Namibie sera logée dans la poule B avec la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Italie. Battu, le Kenya rejoint la poule de repêchage en compagnie du Canada, de l'Allemagne et de Hong Kong. L'équipe qui finira première de cette poule sera qualifiée pour le mondial et sera reversée également dans la poule B. La Coupe du Monde aura lieu du fin septembre au 2 novembre 2019.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, c'est ce matin que la Cour constitutionnelle doit proclamer les résultats définitifs du second tour de la présidentielle du 12 août 2018. Le candidat Soumaïla Cissé, qui rejette les résultats provisoires donnant la victoire au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, était à la tête d'une marche de protestation contre ce qu'il a appelé la fraude électorale. Dans le camp du président Ibeka, ses partisans veulent, eux, attendre les résultats définitifs. Ils se disent cependant très confiants. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Le samedi dernier, les rues de Bamako étaient encore remplies des partisans de Soumaïla Cissé. Ils rejettent les résultats provisoires et proclament leur champion président de la République.
Mais les hommes avec le palais, ça veut tout dire. Les hommes aujourd'hui ont choisi de faire balai. En avant.
C'est un complot. Il va lâcher après, il va donner la série. On n'est pas d'accord. Il va lâcher. Il va lâcher.
Soumaïla, président.
Le résultat de Ibrahim Boubacar Keïta est le fruit de 5 ans de travail. Une concrétisation qui, selon ses partisans, n'est point une surprise. Ibrahim Yago.
En réalité, au lieu de se concentrer sur l'essentiel et à faire campagne, ils se sont appuyés essentiellement à placer des attaques et aller dans des sujets non essentiels pour les Maliens. Donc la communauté internationale et les observateurs nationaux ont salué cette élection comme étant fiable, crédible et transparent, bien entendu. Il peut y avoir par moments des imperfections mineure ça et là, mais ça n'entend pas la crédibilité générale de cette élection.
Devant les marcheurs de samedi dernier, Soumaïla Cissé leur a demandé de résister jusqu'à la victoire finale.
Si un président élu par le vote, les députés élus par le vote, les maires élus par le vote, les présidents de conseil de cercle élus par le vote, les présidents de région élus par le vote, ce pays ne pourra pas fonctionner. Parce que personne ne se reconnaîtra dans ses votes. Et si les gens ne se reconnaissent pas, ils ne vont pas travailler. Attendez-vous à nous, attendez-vous.
Le parti RPM, parti du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, veut attendre les résultats de la Cour constitutionnelle. Boubacar Touré Dibou, membre du RPM.
Le résultat des efforts fournis pendant les 5 années par le camarade Ibrahim Boubacar Keïta, aujourd'hui c'est la concrétisation de ces actes-là. La suite, on attend la proclamation définitive par la Cour constitutionnelle parce que nous sommes des légalistes, des républicains légaliste. Et je ne réponds pas à la provocation. Sinon, par quelle magie on peut déjà rejeter un résultat qui n'est pas proclamé? Est-ce vraiment un esprit républicain patriote?
Plusieurs chefs d'État ont déjà félicité le président Ibrahim Boubacar Keïta sur la base des résultats provisoires. Ce que le chroniqueur Rasbach trouve anormal.
Je n'ai jamais vu un président féliciter quelqu'un de son élection avant la proclamation définitive. Un président comme Hollande s'étouffe, même s'ils aiment Ibeka, de faire preuve de prudence par principe républicain et démocrate. Que Emmanuel Macron et le secrétaire général des Nations Unies félicitent Ibeka avant la proclamation de la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que cela traduit? Qu'est-ce que cela cache?
C'est aujourd'hui que la Cour constitutionnelle du Mali va proclamer les résultats définitifs. Et après, aucune contestation ni recours ne seront possibles. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Tchad, le gouvernement a mobilisé les forces de sécurité pour déloger immédiatement des provinces orientales du Tibesti et du Bata, les orpailleurs installés dans cette partie du pays depuis plusieurs années. Cette décision a été prise après l'attaque qui ont perpétré des rebelles tchadiens contre les forces gouvernementales le 11 août dernier. De N'Djamena, André Kotmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point.
Après l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour faits de terrorisme par le procureur de la République suite à l'attaque du 11 août 2018, attaque revendiquée par le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, le gouvernement passe à une vitesse supérieure. L'ordre a été donné à toutes les forces de défense et de sécurité de déloger sans ménagement ces orpailleurs clandestins et de brûler leur matériel, informe le patron de la sécurité publique. Ces orpailleurs sont-ils complices de l'attaque du 11 août dernier pour mériter ce sort? Le ministre de la Sécurité publique Mohamed Bachir répond.
Il constitue un réservoir de recrutement pour les mercenariats. Je dirais eux-mêmes, ils sont auteurs parce que dans leur aventure ambiguë, il y a des gens qui gagnent de l'or, qui rentrent tranquillement à la maison. Il y a d'autres qui ne gagnent pas, eh bien, on la rôle de l'autre côté. Dans tous les cas, c'est des aventuriers. Ils seront traités comme tels. Des trafiquants d'or, des trafiquants de drogue, des voyous de la République qui sont là-bas. Et vous pensez qu'il faut les caresser au sens de leur poil? Jamais ça.
Le député de l'opposition de la province du Bata, Rakis Ahmad Saleh, s'insiste surge contre cette déclaration. Il demande par ailleurs au gouvernement d'organiser ce secteur afin de booster l'économie nationale.
Je condamne vigoureusement la déclaration du ministre de la Sécurité, une déclaration de guerre qui vise la répression systématique d'une population innocente. Cette gangrène des rebelles, ils ont commis leur forfait et je crois qu'ils sont répartis dans leur base. Donc, nos forces de défense et de sécurité doivent les affronter là où ils sont. L'activité d'orpaillage, le code minier le permet. À ce titre, le gouvernement doit plutôt organiser les secteurs pour que les retombées soient bénéfiques à notre pays, surtout avec la conjoncture de la crise actuelle.
Pour Youssef Abassala, ministre des Mines, du Développement industriel, le gouvernement a tenté de régler ce secteur par le passé, mais sans succès compte tenu de l'afflux massif de Tchadiens et même des étrangers dans la zone à la recherche de l'or. Selon lui, cette situation ne sera réglée que par l'application du code minier. Le député de la majorité présidentielle du département du Tibesti-Ouest, Djidi Alaï Mahamat, se réjouit de la décision du gouvernement.
Depuis 2013, nous avons constaté que les orpailleurs créent beaucoup de problèmes. C'est pourquoi nous avons demandé de faire partir tous ces orpailleurs dans toute la région Tibesti. Mais malheureusement, le gouvernement n'a pas pu faire et ça a continué jusqu'à aujourd'hui 5 ans. Je pense que si le gouvernement a aujourd'hui décidé de faire évacuer ces gens, il a ses raisons.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Attaqués par les forces du 3e degré, des milliers de véhicules de ces orpailleurs, surtout les étrangers venus de l'Afrique de l'Ouest, traversent déjà la frontière Tchad-Soudan. André Kodmadingar Ndjamena, VOA Afrique.
À Bukavu, dans l'est de la RDC, les sinistrés de l'avenue Irambo en commune d'Ibanda font face à divers défis après l'incendie de vendredi qui a détruit 197 maisons et fait plus de 400 familles sans abri. Reportage du correspondant de VOA Afrique au sud Kivu, Ernest Muhero.
Ces sinistrés, le regard dans le vide, se regroupent en petits groupes dans ces sites de l'avenue Irambo devenu méconnaissable. À première vue, l'on croirait à un site d'après-bombardement tellement presque tout est carbonisé. Ça et là, des tôles calcinées jonchent la terre, de la fumée se dégage, ça sent encore le brûler. Ce dimanche, le désespoir se lit encore sur les visages des victimes de l'incendie du vendredi qui a consumé les biens des centaines de familles en moins de 3 heures. Chamamba Capitaine, un étudiant en deuxième licence en géologie, a tout perdu, y compris ses notes de cours.
Nous avons perdu tant de choses de valeur. Je ne sais pas où il y a mes notes, mais là, je ne sais pas comment préparer mes deuxièmes sessions. Donc c'est tout un problème. C'est tellement grave. La situation est inexplicable. On n'a pas où passer la nuit. On est tous à l'extérieur.
Pour l'heure, une timide chaîne de solidarité se déploie en faveur des sinistrés qui passent la nuit à la Belle Étoile. Le chef de quartier Nyalukemba de Okurasa appelle à la solidarité collective.
Plus de 400 ménages qui sont dans la rue, aucune perte à vie humaine. Donc ils sont dans la rue dépourvue de tout. Donc, un SOS à toutes les autorités de bonne volonté, à tous les ONG, de venir cette population en aide. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Donc, c'est une catastrophe.
Face aux intempéries, ceux qui n'ont pas envoyé leurs enfants auprès de leur connaissance le plus proche se résolvent à se reconstituer un chez-soi avec le moyen de bord, ne sachant pas où aller. Vincent Dolandola.
Nous commençons à se débrouiller, puisque c'est chez nous, avec le tôle brûlé. Les planches détruites ressemblent pour construire des maisonnettes pour passer la nuit. On n'a pas encore vu l'assistance de notre gouvernement.
Marteau et outils aratoires en main, les hommes, les jeunes, les femmes et même les enfants mettent la main à la pâte. La vie est invivable par ici. Il n'y a plus d'électricité, de nourriture, d'abri et même l'eau ne coule presque plus des robinets. Les victimes de l'incendie déplorent que parmi ceux qui sont venus les aider à éteindre le feu, quelques inciviques se sont aussi infiltrés. Madame Rebecca Bahati en parle.
Toutes nos maisons sont calcinées. Nous sommes sans abri. Les
famille dispersée. On a tenté de sauver certains de nos biens. Mais aussitôt que tu les tires difficilement dans les flammes, les voleurs s'en accaparent. Vraiment, c'est une humaine. Je ne sais même pas où sont mes biens. Que les autorités aient pitié de nous.
C'est le troisième incendie à Irambo depuis le début de l'année. Une situation qui révolte plus d'un habitant qui passe par ici. Anselme Ouimier, un habitant du quartier voisin, plaide pour l'élargissement de la ville.
Il est grand temps d'étendre la ville. On doit ouvrir les routes au-delà de Bukavu, qui devient déjà sursaturé. Parce que si les maisons étaient espacées, si les maisons étaient bien construites, on n'aurait pas connu un tel drame. J'ai vu les flammes, mais j'ai pu rien faire. Ça fait mal.
Cet incendie propagé à grande vitesse par le vent du soir le vendredi est parti d'une maison où, par mégarde, une fillette de 12 ans aurait jeté une serviette enflammée sur des matelas alors qu'elle faisait la cuisson. Par la suite, un brasier mouvant a changé l'histoire de ces lieux. Ernest Mouero Bukavu pour VOA Afrique.
Au Sénégal, l'Eid al-Adha, communément appelé Tabaski en Afrique de l'Ouest, sera célébrée dans quelques jours. Cette fête religieuse est symbolisée par le sacrifice du mouton, un acte de foi qui est devenu cependant une charge sociale presque obligatoire au Sénégal. Dans les familles, même très pauvres, acheter un mouton parfois au-dessus de ses moyens est devenu presque impératif pour éviter d'être la risée du quartier. Cette situation, combinée à la cherté des moutons, pose d'innombrables problèmes aux chefs de famille, nous dit notre correspondant à Dakar, Sédina Abagui.
À Dakar, les points de vente de moutons ne désemplissent pas. À quelques jours de la fête de Tabaski, les chefs de famille se débrouillent comme ils peuvent pour trouver un mouton à la hauteur de leurs ambitions. Babacar estime qu'il est impératif d'avoir un beau bélier.
On est au Sénégal et les pratiques culturelles dominent la religion. C'est pourquoi beaucoup de gens achètent des moutons au-delà de leurs moyens. Certains sont raisonnables et se limitent aux recommandations religieuses, mais d'autres se sacrifient pour acheter des béliers à des prix exorbitants, car ils ont honte d'amener un petit mouton à la maison. Ils craignent surtout les moqueries de leur belle famille et de leurs voisins.
Pour Modou Faï, ceux qui achètent des moutons au-delà de leurs moyens se retrouvent souvent dans une situation financière désastreuse après la Tabaski.
La religion a facilité les choses, mais ce sont les gens qui se compliquent la vie. Tu vois une personne qui a la possibilité d'acheter selon sa bourse, mais au lieu de cela, elle va acheter un mouton hors de prix pour finalement se retrouver avec des dettes insoutenables. On voit des personnes qui achètent des moutons à 500 000 francs CFA alors que leur salaire ne dépasse pas 250 000 francs. C'est pourquoi, après la fête, beaucoup de gens sont dans le pétrin.
Souvent pointés du doigt à cause de la cherté des moutons, les éleveurs estiment que les charges qu'ils supportent justifient les prix qui sont imposés aux clients. Abdoulaye Ndiaye tient un point de vente au quartier Zone B de Dakar. Il affirme que malgré tout, les clients ont toujours le choix d'acheter moins cher.
Élever un mouton, c'est trop dur au Sénégal. On dépense beaucoup parce que l'alimentation coûte très cher. Et c'est très dur d'élever un mouton au Sénégal. Ça s'explique par rapport aux races, parce qu'il y a les Touabir, il y a les Ladou, il y a les Balibali. Je pense que les Touabir sont moins chers que les Ladou.
Non loin du point de vente de Abdoulaye se tient un client très remonté. Pape ne cache pas sa colère. Il trouve les prix exagérés.
Beaucoup de gens risquent de ne pas avoir de moutons pour la fête car les prix sont anormalement élevés. Les éleveurs font ce qu'ils veulent car il n'y a aucun encadrement des prix. Les autorités devraient limiter les prix car les moutons deviennent de plus en plus chers chaque année. Et si rien n'est fait contre cette flambée des prix, il y aura une année où les moutons seront intouchables.
Au Sénégal, l'Eid, communément appelé Tabaski, sera célébré une nouvelle fois dans la division les mardis 21 et mercredi 22 août 2018. Considérée comme l'une des plus importantes fêtes musulmanes, la Tabaski est devenue un casse-tête pour la majorité des chefs de famille qui doivent coûte que coûte trouver un mouton pour satisfaire une recommandation religieuse qui se transforme de plus en plus en exigence sociale. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console d'Ariel Smith. Merci à Anna Burson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.